présente le podcast Agir avec son argent, en partenariat avec le Crédit Coopératif. Oui, une autre banque est possible.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast produit par le Crédit Coopératif en partenariat avec le média ID, l'info durable. Une série de 4 numéros pour comprendre comment notre argent peut être un puissant levier de transformation de la société à condition de faire les bons choix. Dans ce premier épisode, nous allons expliquer la finance solidaire et son histoire depuis 40 ans. Comment a-t-elle évolué? Quel impact elle a eu sur la vision et le monde de la finance? Et quel impact a-t-elle vraiment aujourd'hui? Pour en parler, je serai avec Imad Tabé, vous êtes directeur de la clientèle des particuliers du Crédit Coopératif. Et à nos côtés, Patrick Sapi, vous êtes directeur général de FAIR. J'ai envie de commencer par cette question. FAIR, qu'est-ce que c'est? F-A-I-R.
Oui, absolument. F-A-I-R, c'est un acronyme, ça veut dire financer, accompagner, impacter, rassembler surtout, puisque FAIR, c'est le collectif des acteurs de la finance solidaire.
Vous êtes ici parce que vous représentez ce secteur de la finance solidaire et si on parle avec vous, qui représentez le Crédit Coopératif, c'est parce que la finance solidaire, c'est un peu dans votre ADN, beaucoup peut-être même. Et là, c'est pas de la com, je parle d'une réalité, mais c'est-à-dire...
Ah oui, tout à fait. En fait, le Crédit Coopératif existe depuis 130 ans et ça fait 130 ans qu'on est au service de l'économie sociale et solidaire, qu'on finance les acteurs de la transition sociale et environnementale. Et de ce fait, on a été pionnier dans la finance solidaire il y a 40 ans, lorsque le premier produit solidaire s'est créé, c'était Faim et Développement, avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et le Crédit Coopératif a été à l'initiative de la création de ce premier produit solidaire.
Oui, donc vraiment dans l'histoire de cette finance à part, Patrick Sapi, comment est-ce qu'on reconnaît un produit financier, puisque c'est quand même comme ça que ça s'appelle? Mais on va aller ensuite dans le concret. Qui peut être estampillé solidaire de tous les autres par rapport à tous les autres? Quelle est cette différence?
Alors, il y a à peu près 200 produits solidaires qui existent en France. Il y en a de toutes sortes, hein, des choses que les épargnants connaissent bien. Hein. Il y a des livrets d'épargne, j'imagine qu'on va en parler. Il y a des parts de fonds d'investissement, il y a de l'épargne salariale. Bref, il y a plein de choses différentes, il y en a 200. Et effectivement, la manière de les reconnaître, en gros, pour guider les épargnants, c'est qu'il existe en fait un label, le label FinanSol, qui existe depuis un peu moins de 30 ans maintenant, 25 ans, qui du coup va... labelliser ces produits solidaires et faire en sorte que les épargnants soient plutôt en confiance dans la manière dont ils vont placer leur argent pour être sûr que l'argent qu'ils placent, il va là où ils ont vraiment envie qu'il aille.
Comment vous en êtes sûr, vous? C'est vous qui labellisez?
Alors, c'est pas nous directement, on gère le label, en fait, on assure le secrétariat du label. Pour qu'un label marche, d'abord, il faut qu'il soit exigeant, et puis, il faut surtout éviter les conflits d'intérêts. Donc, en fait, c'est un comité du label qui est composé de personnalités qui sont bénévoles et indépendantes, en fait, de tout membre de l'association, et qui vont, en fait, démonter les moteurs pour voir d'où vient l'argent, d'une part, et surtout, où va l'argent, qu'est-ce qu'il va financer.
Concrètement, au Crédit Coopératif, Imad Tabé, vous avez des produits qui sont labellisés FinanSol. Alors, donnez peut-être un ou deux exemples pour que ce soit vraiment concret et qu'on puisse voir derrière ce qui en découle. Je vous propose là d'ouvrir le capot et regarder ce moteur.
Alors, du coup, le premier produit que j'ai envie de citer, c'est le livret Agir. C'est un livret de partage, donc où la moitié des intérêts sont versés sous forme de dons par les épargnants à des associations dans des différents domaines, solidarité internationale, environnement, action sociale. C'est un livret qui a été créé il y a plus de 20 ans et c'est un livret qui verse aujourd'hui pratiquement 1,5 million d'euros de dons aux associations. Et donc c'est un des produits de partage qui génère le plus de dons en France aujourd'hui.
Là, ça veut dire, livret Agir, c'est un livret A finalement, dont une partie des intérêts est reversée sous la forme de dons à des associations du choix.
Non, ce n'est pas un livret A, c'est un livret non réglementé pour le coup, avec la moitié des intérêts qui sont versés volontairement par l'épargnant à l'association choisie.
Patrick Sapi, est-ce qu'avec une solution comme celle-ci, donc un livret créé par le Crédit Coopératif, est-ce qu'on change vraiment les choses à la fin? Est-ce que ça impacte vraiment? Parce qu'on a parfois l'impression qu'un coup on plante des arbres, un coup on fait des dons, un coup on arrondit en caisse, mais on a du mal à voir ce que ça recouvre vraiment derrière.
La finance solidaire regroupe en fait deux grandes familles. En fait, vous avez effectivement tous les produits de partage dont vient de parler Imad, où en fait l'épargnant va décider sur la base d'une proposition de sa banque d'abandonner une partie de ses intérêts, et ses intérêts vont réellement aller à une association qui est proposée en gros par la banque à l'épargnant, et nous, on va aller vérifier, en gros, que l'argent va bien là où il doit aller. Donc ça, on pourrait assimiler ça à de la philanthropie, parce que c'est évidemment un don, en l'occurrence, mais c'est important, hein, les dons pour les grandes associations, parce que c'est non affecté, et donc ils vont pouvoir développer leur projet tranquillement, sans devoir naturellement rendre des comptes à leurs bailleurs. Mais la finance solidaire, c'est aussi de l'investissement, c'est-à-dire que vous avez aussi une partie des épargnants sur d'autres produits qui vont plutôt placer leur épargne, et on va utiliser cet argent-là en fait pour aller faire des prêts ou investir dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une autre forme en fait de finance solidaire, et les deux formes sont complémentaires en fait. Les livrets de partage et les produits de partage représentent aujourd'hui 3 milliards d'euros, même un peu plus, ils sont labellisés FinanSol. Et les produits d'investissement, là c'est un peu plus important, vous avez un grand canal de collecte d'épargne qui est l'épargne salariale solidaire, qui a collecté à peu près 15 milliards d'euros d'épargnants et d'épargnants qui investissent du coup une partie de leur argent dans des projets d'utilité sociale.
Idée présente le podcast Agir avec son argent, en partenariat avec le Crédit Coopératif. Oui, une autre banque est possible.
Est-ce qu'il y a une demande des épargnants d'avoir comme ça des solutions d'épargne ou d'investissement dans une banque comme la vôtre, donc le Crédit Coopératif, pour donner davantage de sens à son argent? Parce que on est un peu inquiet, ou on a envie de faire bouger les choses autour du climat, de la biodiversité, la solidarité, la précarité. Et ça vient aussi donc de la base des clients particuliers, c'est une demande?
Ah oui, tout à fait. En tout cas, ceux qui nous rejoignent dans cette optique-là. Nous, on s'est positionné très tôt sur le terrain de l'épargne solidaire et de la traçabilité, puisque par ailleurs, Patrick évoquait d'où venait l'argent, où allait l'argent, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, nous aussi.
La transparence.
Plutôt la traçabilité, c'est-à-dire vraiment de dire, finalement, les ressources qu'on collecte au niveau de la banque servent à financer tel ou tel type de projet. Et donc, du coup, les épargnants qui nous rejoignent pour ça, soit effectivement pour partager, et je préfère l'idée de partager les intérêts plutôt que de dire qu'on les abandonne. Enfin, c'est pas un abandon, c'est vraiment une décision volontaire de partager avec une association, une fondation bénéficiaire, ou s'il n'y a pas cette notion de partage, au moins savoir que l'argent qui est déposé dans cette banque va servir à financer des projets sociaux, environnementaux.
Par exemple ?
Par exemple, on a un livret qui s'appelle Coopération pour ma région, qui permet de financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans la région choisie par le client. Donc on a là une traçabilité à la fois sectorielle, le secteur de l'économie sociale et solidaire, et la région. Donc on sait que l'argent ne va pas aller financer des investissements potentiellement polluants dans des pays en voie de développement, par exemple.
Et tout l'enjeu, c'est aussi de faire venir, j'imagine, une clientèle pour passer à l'échelle la plus large possible sur ce type de produit, pour que l'argent finisse par changer le monde d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait assez. Alors, comment est-ce qu'on attire de nouveaux clients? Parce qu'effectivement, là, on est sur du partage. Donc, il faut quand même accepter, non pas d'abandonner, on l'a compris, mais de partager une partie de ses intérêts. Mais comment on trouve cette ligne médiane entre retour sur épargne ou investissement, externalité positive, donc impact, le fait de changer les choses, et notamment du point de vue solidaire?
Alors déjà, quand on choisit un produit tracé, on n'est pas dans une logique de partage. Ça coûte pas plus cher, ça coûte pas moins cher. On a par exemple un compte qui s'appelle le compte Agir, qui est un compte tracé où on choisit le domaine sur lequel l'argent va être investi, entre la planète, le social ou d'autres formes, l'entrepreneuriat coopératif. Donc du coup, l'engagement, il est de choisir une banque qui va investir les dépôts collectés sur des projets sociaux et environnementaux. Et après, si on a envie d'aller plus loin, là, pour le coup, effectivement, il y a les produits de partage qui permettent de partager les intérêts avec des associations ou des fondations.
Patrick Sapi, comment on donne envie à la terre entière alors de se mettre à la finance solidaire? Quels sont les idéaux que vous poussez, les récits aussi que vous essayez d'impulser pour embarquer les gens? Il faut aussi qu'il y ait une histoire, non?
Oui, alors il faut qu'il y ait une histoire. Alors la finance solidaire, en fait, c'est tout petit, hein, je le rappelle aussi, hein, ça fait 0,45% de l'épargne des Français. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. La finance solidaire, c'est 26 milliards. Donc on ramène les choses à l'échelle. Elle a deux problèmes.
C'est bien de le dire.
Oui, elle a deux problèmes, la finance solidaire. Elle a un problème de notoriété. En gros, la finance solidaire, elle est citoyenne, mais elle n'est pas populaire, au sens où elle n'irrigue pas, en fait, toutes les catégories sociales de la population. Elle touche des gens motivés, engagés. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on arrive à toucher les autres et à changer d'échelle. Premier problème. Deuxième problème, elle souffre aussi de beaucoup d'idées reçues. Ça rapporte moins, on ne sait pas ce que ça va financer. Les épargnants, pour reprendre ce que disait Imad, en fait, ils ont très envie de s'engager, mais ils savent pas ce qu'il y a dans les produits, ils réclament plus de transparence, ils veulent du rendement aussi, donc il faut aussi adresser cette question-là. Et donc, pour changer les choses, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'incarnation, en fait. La finance solidaire, ça finance plein de projets qui sont à côté de chez nous, dans tous les territoires qu'on connaît, dont on connaît le dirigeant, des entreprises d'insertion, des recycleries, plein de projets différents qui sont dans les territoires et qui émergent. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, et le deuxième levier, en fait, pour mieux la faire connaître, c'est évidemment la régulation financière. Il faut...
réglementation.
Oui, il faut à la fois un peu de fiscalité quand on investit dans ces projets-là, mais il faut aussi un peu de contraintes, en l'occurrence, notamment pour les établissements financiers, pour qu'ils soient mieux à même à proposer ce type de projet. Et puis, la troisième chose, c'est guider, en fait, les épargnants, et les labels sont très utiles pour ça.
Comment vous faites, vous, pour convaincre les particuliers? Parce que j'imagine que parfois, ils viennent vous voir, mais il faut aussi aller vers eux, leur expliquer. Quel est le récit que vous portez au Crédit Coopératif Imad Tabe?
Nous, c'est très cohérent, parce que comme on a ce positionnement et qu'on l'affiche, et que c'est pas une activité marginale, si vous voulez. Aujourd'hui, la plupart des banques en France proposent un ou deux produits solidaires. Nous, on est dans une démarche où c'est proposé systématiquement à tous nos clients lorsqu'ils nous rejoignent. Et donc, le fait d'avoir cette proposition systématique, le fait d'être une banque qui finance côté entreprises et associations des structures de l'économie sociale et solidaire, finalement, on fait le lien entre nos clients particuliers et nos clients entreprises et associations, et c'est très cohérent. Et du coup, cette cohérence fait que finalement, c'est bien compris et accepté par les clients particuliers qui nous rejoignent.
Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. On a bien compris, il y a encore du boulot, hein, c'est ce que vous nous avez dit.
On a 1 à 2 millions d'épargnants solidaires en France. La vraie question, c'est comment on passe à 25?
On a apporté quelques éléments de réponse. Merci Patrick Sapi, vous êtes directeur général de FER, et Imad Tabe, directeur de la clientèle des particuliers du Crédit Coopératif. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Idée présente le podcast Agir avec son argent, en partenariat avec le Crédit Coopératif. Oui, une autre banque est possible.